8h tout pile, c'est l'heure du journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Peut-être la fin du mouvement des agriculteurs. Les principaux syndicats agricoles appellent à la levée des blocages après les annonces de Gabriel Attal. Des mesures économiques au détriment parfois de l'écologie. Le Premier ministre a décidé de mettre en pause le plan Ecophyto visant à réduire l'usage des pesticides. 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne ont finalement trouvé un accord après la levée du veto du Hongrois Viktor Orban. Un message clair envoyé à Vladimir Poutine, ont insisté Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Notre dossier consacré ce soir à l'Azerbaïdjan. Des journalistes sont en prison dans ce pays pour avoir révélé un scandale autour d'une mine d'or. Dossier de Virginie Pironon avec le collectif Forbidden Stories. Enfin, nous reviendrons sur la mobilisation de dizaines de milliers d'enseignants aujourd'hui en France. Plus de 40% de grévistes selon les syndicats, 20% d'après le ministère de l'Éducation. Gabriel Attal a-t-il réussi à éteindre la colère du monde agricole? En tout cas, les deux syndicats majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ont appelé cet après-midi à la levée des blocages après les dernières annonces du gouvernement. Depuis Matignon, le Premier ministre a détaillé à la mi-journée une batterie de mesures concrètes. À ses côtés, les ministres de l'économie, de l'agriculture et de la transition écologique. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Stanislas.
Pour calmer la colère paysanne, l'exécutif a visiblement fait le choix d'une stratégie plus économique qu'écologique.
Il pose d'entrée de jeu deux mots d'ordre, Gabriel Attal.
Produire et protéger.
Avec un objectif, la souveraineté.
Nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter.
Et parce qu'il y a eu des erreurs.
Il faut avoir la lucidité de le reconnaître.
Il faut aussi continuer à tenter de les corriger. Au menu de cette troisième vague d'annonces, la promesse d'inscrire dans la loi l'objectif de souveraineté alimentaire, un renforcement des lois Egalim et des contrôles, notamment dans la grande distribution, une enveloppe de 150 millions d'euros pour les éleveurs, le relèvement des seuils d'exonération sur les successions agricoles et dans le même temps des mesures concernant les pesticides.
Sur le plan Ecophyto, nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre en place un nouvel indicateur.
Ce plan qui fixe des objectifs de réduction dans l'utilisation des produits phytosanitaires et dont un nouveau volet était en discussion. Ce n'est pas un retour en arrière, assure l'entourage du Premier ministre, mais cela s'accompagne aussi de la volonté affichée toujours par le chef du gouvernement, également en charge de la planification écologique, d'en finir avec des interdictions de molécules en France avant que ce ne soit le cas au niveau de l'Union européenne.
Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on prend de l'avance alors même qu'une procédure est ouverte au niveau européen et que les agriculteurs français se retrouveraient les seuls à faire l'objet de cette interdiction. Nous sortirons de cette situation.
Pas de surtransposition des normes, pas d'interdiction sans solution, martèle encore Gabriel Attal, sans enveloppe précise en la matière.
Je veux rappeler que nous avons déjà mis 250 millions d'euros pour financer l'identification de nouvelles solutions et nous mettrons à nouveau un coup de collier pour y parvenir.
Après, le Premier ministre s'exprime dans l'ordre Bruno Le Maire pour l'économie.
Nous allons donc entrer dans une phase de contrôle massif.
Marc Fesneau à l'agriculture.
D'abord, vous parlez de renouvellement des générations.
Et Christophe Béchu.
La souveraineté, c'est bon pour l'écologie.
Le ministre en charge de la transition écologique, dernier à prendre la parole en introduction de cette conférence de presse.
Rosalie Lafarge, merci. Après la FNSEA et les jeunes agriculteurs, un troisième syndicat agricole, la Coordination Rurale, vient d'appeler à la levée des barrages. En revanche, la Confédération Paysanne, classée à gauche, veut poursuivre la mobilisation. Mathilde Cariou, bonsoir.
Bonsoir.
Voyons avec vous les principales réactions des syndicats agricoles.
Eh bien, la FNSEA et les jeunes agriculteurs semblent plutôt satisfaits, notamment de la suspension du plan Ecophyto, de la dérogation sur les prairies qui faisait partie de leurs revendications, et puis de toutes les mesures d'urgence énumérées cet après-midi par le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.
Le GNR, l'indemnisation sanitaire et climatique, le versement rapide des dernières PAC qui ne l'ont pas été, les mesures fiscales, notamment sur le secteur de la viande bovine, mais aussi sur les jeunes agriculteurs, un plan d'aide d'urgence pour la viticulture.
Alors évidemment, pour tous ces engagements, ils attendent des garanties, à commencer par un document de synthèse qui les mette noir sur blanc, et ensuite des résultats avec un premier bilan d'ici un mois au Salon de l'Agriculture et un second au mois de juin qui prennent en compte une réflexion sur l'Europe. D'ici là, les barrages sont levés. Au contraire, la Confédération paysanne entend bien poursuivre le mouvement, car les mesurettes c'est bien, mais les projections à long terme c'est mieux, nous dit sa secrétaire générale Véronique Marchessault.
Il faut tendre vers une agriculture qui, en premier lieu, permet à ces travailleurs et travailleuses de vivre de leur travail et à fournir une alimentation de qualité à nos consommateurs. citoyens et citoyennes. Et là, on n'a pas cette assurance de pouvoir vivre de notre travail. Donc, on va continuer.
La Confédération paysanne qui s'inquiète par ailleurs de divers reculs, on l'évoquait à l'instant avec Rosalie, sur le plan écologique.
Là, il y a quelques lignes rouges qui, pour nous, ont été franchies sur les pesticides, sur l'eau, sur les OGM, sur la viande cellulaire qui répondent à côté de la plaque à cette crise d'aujourd'hui et surtout à côté de la plaque pour l'avenir de l'agriculture.
Quant à la coordination rurale, vous le disiez, elle semble s'aligner sur la FNSEA et ranger les tracteurs. En attendant que ça bouge au niveau européen, mais ça, dit sa présidente devant l'Assemblée nationale, ça ne peut pas venir de Gabriel Attal.
Mathilde Cariou, merci. Une réaction notable ce soir du côté politique, celle des écologistes. Marie Toussaint, tête de liste du parti aux européennes, dénonce la mise sur pause du plan Ecophyto, un recul inacceptable et un cadeau empoisonné au monde agricole, écrit Marie Toussaint sur le réseau X, ex-Twitter. Gabriel Attal a donc tenté de répondre aux revendications des agriculteurs français. Mais à Bruxelles, alors que se tient un sommet des dirigeants de l'UE, ce sont des centaines d'agriculteurs européens qui ont manifesté leur colère aujourd'hui. Une colère contre les normes européennes, mais aussi contre l'ouverture des frontières aux productions étrangères et notamment ukrainiennes. Le reportage à Bruxelles d'Angélique Boin.
La manifestation avait commencé par des heurts avec la police. Elle s'est poursuivie en chanson avec au centre de la place une épaisse fumée noire. Paille et pneus ont brûlé toute la journée. Julien Hubert de la Fédération des jeunes agriculteurs belges espère que le combat va se poursuivre.
Mais on ne bouge pas. Il y en a beaucoup qui vont retourner travailler chez eux dans leur ferme. Je suis sûr qu'il y en a qui vont rester ce soir et que demain, il y en a d'autres qui vont revenir et on peut rester comme ça longtemps. Hein.
Delphine Ladouve, éleveuse en Wallonie, espère surtout que cette spectaculaire mobilisation va porter ses fruits.
On doit être entendu. Il y a certainement des choses qui vont bouger parce que quand les tracteurs débarquent, ça fait un peu peur.
Vers 17h, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, annonce qu'elle va réduire leur fardeau administratif. Réaction mitigée d'Yves Van den Voort, coordinateur d'un syndicat paysan wallon.
Ça répond tout à fait à une préoccupation, mais il faudra que les États prennent les mesures pour alléger tout ce qui se passe entre l'agriculteur et l'État. Parce que hier, elle annonçait autre chose, aujourd'hui, elle annonce ceci. Moi, ça me fait tout de même un peu peur comme type d'annonce.
En quittant la place, les agriculteurs ont laissé leur pancarte « Peuple européen, dites non au despotisme, stop au Mercosur », des banderoles qui résument le message du jour.
Angélique Boin à Bruxelles, au sujet de ces importations agricoles d'Ukraine, notons ce soir cette déclaration d'Emmanuel Macron. « Nous avons obtenu des mécanismes de protection », affirme le président français. Alors, si la crise agricole est venue percuter ce sommet européen de Bruxelles, les 27 dirigeants de l'UE étaient d'abord réunis pour discuter de l'aide à l'Ukraine, avec un résultat tangible pour Kiev, une enveloppe de 50 milliards d'euros pour les 4 prochaines années. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a finalement levé son veto, malgré son tropisme pro-russe qui l'avait amené à bloquer cette aide européenne en décembre. On retrouve Louise Baudet à Bruxelles, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Louise, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron évoquent ce soir un message très fort envoyé à Vladimir Poutine.
Oui, la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens. Message martelé par Emmanuel Macron il y a quelques minutes, mais aussi par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et plusieurs autres dirigeants européens à l'issue d'un sommet bien plus court que prévu. L'accord intervenu avec le Hongrois Viktor Orban, qui a levé son veto, accord A27, qui permettra d'envoyer de l'argent frais à l'Ukraine dès le début du mois de mars. Cet accord permet à l'Union européenne d'afficher son unité et d'affirmer sa volonté d'aider l'Ukraine dans la durée. Message clair à Moscou presque 2 ans après le début de la guerre, alors qu'aux États-Unis, le Congrès américain n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur les 61 milliards de dollars promis à Volodymyr Zelensky. Plus vite que prévu donc, le trublion Viktor Orban, premier ministre hongrois pro-Kremlin, a plié. Il voulait renégocier chaque année l'aide de 50 milliards avec vote systématique et donc droit de veto. Le compromis acté ce matin prévoit la possibilité d'un réexamen de l'enveloppe dans 2 ans si les 27 le décident à l'unanimité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Face à la détermination des autres dirigeants à obtenir un accord A27, il a singulièrement lâché du lest. L'élastique sur lequel il tire si souvent menaçait de rompre. Il a donc, pour une fois, cessé de jouer.
Louise Baudet qui suit ce sommet européen pour France Culture. Voyons à présent les réactions en Ukraine. Maureen Mercier, on vous retrouve à Kiev. Cette aide, Maureen, les Ukrainiens en ont désespérément besoin. On devine évidemment leur soulagement.
Cet accord prouve une fois de plus la forte unité de l'Union européenne. Ce sont les mots du président ukrainien Zelensky, soulagé d'autant plus que la Hongrie n'a pas obtenu que cette aide soit rediscutée chaque année comme elle le souhaitait. L'engagement se fait sur 4 ans pour l'Ukraine, cela donne de la visibilité. Sur ces 50 milliards d'euros d'aide, 17 milliards de dons, 33 de prêts à des taux d'intérêt très faibles. Cette aide va permettre à l'État de fonctionner, à payer les salaires des fonctionnaires. Dans les faits, les négociateurs le confirment, cette aide va aussi permettre de payer les salaires des soldats. Avec la guerre, leur nombre a littéralement explosé, cela représente une charge extrêmement lourde pour Kiev. Cette aide donne de l'espoir à l'Ukraine, l'espoir qu'après l'Union européenne, les États-Unis accordent enfin à leur tour l'aide toujours bloquée au Congrès, 60 milliards de dollars, une aide essentiellement militaire, vital pour l'Ukraine.
Maureen Mercier, correspondante à Kiev. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir dans le Caucase, en Azerbaïdjan, riche en pétrole et en gaz. Ce pays de 10 millions d'habitants votera mercredi pour élire ou plutôt réélire son président, car ce scrutin anticipé ne devrait pas échapper à l'actuel chef de l'État, Ilham Aliyev, au pouvoir à Bakou depuis 2003. La campagne électorale a été marquée par l'arrestation de nombreux journalistes, dont ceux d'Abzaz Media, un média anticorruption. Ils sont 6 actuellement derrière les barreaux. Virginie Pironon, vous avez repris l'une de leurs enquêtes avec le consortium de journalistes internationaux Forbidden Stories. Enquête sur une mine d'or qui a visiblement beaucoup dérangé le pouvoir azerbaïdjanais.
La mine d'or est située à l'ouest du pays, à environ 450 km de la capitale, Bakou. Le 20 juin dernier, des habitants du village de Soyoulou manifestent contre la création d'un nouveau lac artificiel de stockage de déchets chimiques, dont du cyanure, alors qu'un premier bassin, à 400 mètres des habitations, polluerait, selon eux, les sols, serait la cause de maladies respiratoires et même de cancers.
Nos bébés ne doivent pas grandir malades. Nous voulons élever des enfants en bonne santé.
La manifestation d'une centaine de personnes est durement réprimée. Dès le lendemain, filmée par une poignée de journalistes, dont Nargiz Absalamova d'Abzaz Media, des habitants demandent des comptes à la police, comme cette villageoise à propos d'un membre de sa famille.
Il a été blessé au visage. Il a été envoyé en détention provisoire pour 20 jours. Il meurt de faim là-bas. On ne lui donne pas de pain.
Pour avoir filmé ces témoignages, la journaliste Nargiz Absalamova sera détenue quelques heures, puis expulsée du village. Arrêtée à nouveau en novembre, elle est aujourd'hui en détention. À ses côtés, ce jour-là, à Soyoulou, le journaliste Elmadine Chamilzadeh, qui vit aujourd'hui en exil, lui sera inquiété 2 semaines plus tard, à Bakou, pour avoir pris en photo des policiers et les avoir partagés sur les réseaux sociaux. Interrogé par la police, il est sévèrement battu avant d'être emmené dans un centre de détention provisoire.
Là, un autre policier est arrivé et il a commencé à enlever son pantalon tout en me disant « je vais te violer si tu ne nous donnes pas ton mot de passe ». Et j'ai dit « ok ». J'ai donné mon mot de passe.
3 semaines après les manifestations, l'activité de la mine, qui est exploitée par une entreprise britannique, Anglo-Asian Mining, sera interrompue, le temps de mener des analyses. À la demande du président Aliyev, qui se saisit du sujet, une commission est mise en place. Au passage, cette commission est présidée par le ministre de l'écologie et des ressources naturelles, Mukhtar Babayev, qui sera cette année le président de la COP29, qui aura lieu en Azerbaïdjan. Résultat des analyses auxquelles nous n'avons pas eu accès, je cite, « aucun échantillon de sol n'a révélé la présence de cyanure au-delà des limites de détection analytique ». En attendant sur place, le village de Soyoulou vit toujours sous confinement strict, la population dans la peur, comme nous l'a confié cet habitant dont nous avons fait lire le témoignage.
« Ils ont pris nos fils, ils les ont torturés. Dans un tel état, si vous dites la vérité, ils vous coupent la langue. Ils peuvent facilement vous faire passer pour un dealer de drogue. Une personne a déjà été condamnée à 3 ans de prison. Mais à qui voulez-vous qu'on se plaigne ? »
4 mois après les manifestations, la mine a pu reprendre ses activités. L'or est ensuite vendu en Suisse, chez MKS Pamp, une des plus grandes raffineries d'or au monde. Parmi ses clients, des entreprises comme Tesla, Samsung ou Apple. Aucune, excepté Microsoft, qui nous a réitéré ses engagements sur les droits de l'homme, n'a répondu à nos questions. Cet or d'Azerbaïdjan peut donc se retrouver dans nos ordinateurs, nos smartphones ou nos voitures électriques.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France, la Bakou Connection, série d'enquêtes d'un consortium de 15 médias internationaux menée par Forbidden Stories, à retrouver sur le site forbiddenstories.org. Retour à l'actualité française. Les syndicats d'enseignants semblent avoir réussi leur mobilisation aujourd'hui pour les salaires et les conditions de travail. 47% de grévistes dans les collèges et les lycées, selon le SNES-FSU. 40% dans les écoles maternelles et élémentaires, d'après le SNUIPP. Le ministère de l'Éducation avance, lui, le chiffre global de 20% d'enseignants en grève. Les déclarations polémiques de la ministre Amélie Oudéa-Castéra ont sans doute contribué au succès de cette mobilisation. À Paris, plusieurs milliers de personnels de l'éducation nationale ont manifesté cet après-midi, leur plus important rassemblement depuis les manifestations contre l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. C'était il y a 2 ans. Hakim Kasmi était dans le cortège parisien.
Parmi les mesures qui cristallisent la colère des enseignants, les groupes de niveau qui doivent entrer en vigueur à la rentrée et qui dans certains cas pourraient se faire au détriment d'autres matières, faute de moyens, craint Laetitia Lefebvre, professeure d'anglais au collège La Grange-Aubel à Paris.
Nous avons par exemple peur de perdre les petits groupes en langue vivante. Moi je suis professeure d'anglais et la crainte c'est qu'on supprime encore des groupes, notamment en langue vivante, et puis pourquoi pas en sciences. Et nous avons des craintes aussi sur l'organisation des enseignements artistiques. Le ministère annonce du théâtre toutes les semaines, mais sur quels moyens ? C'est ça notre crainte.
Résultat, certaines familles pourraient être encouragées de mettre leur enfant dans le privé, estime Catherine Nasbekti, secrétaire générale du SGEN-CFDT.
On a aussi des alertes fortes dans des territoires où le système d'enseignement privé est très développé, que des collèges vont devoir abandonner leur groupe de latin ou d'allemand parce que tous les moyens vont être mis sur les groupes de niveau et ça alimente le risque d'évitement scolaire vers l'enseignement privé.
Des enseignants venus également manifester contre le manque de professeurs remplaçants qui s'est accru ces dernières années avec la crise des vocations. Léa, professeure de CP à Bagneux, en région parisienne.
Quand il y a un collègue absent pour une maladie ordinaire, une absence de 1 ou 2 jours, on sait que le collègue ne sera pas remplacé. Ces élèves seront répartis dans nos classes et qu'on fera avec cet effectif supplémentaire. Sur des maladies de plus longue durée, on arrive de façon ponctuelle à avoir des remplacements, mais ce n'est pas forcément une personne fixe qui reste pour toute la durée de l'arrêt, etc. C'est une vraie problématique.
Pour les syndicats, pas question de relâcher la pression. Ils doivent se réunir dès ce soir pour décider des suites et des actions à mener dans les prochains jours.
Hakim Kasmi et Johanna Gabric pour les moyens techniques. Il y a eu aussi des manifestations en région. 2300 enseignants à Rennes et Nantes, 1600 à Marseille selon les syndicats. Rachida Dati a-t-elle parlé trop vite en annonçant fièrement mardi la fin de la grève au Centre Pompidou à Paris? La ministre de la Culture s'était vantée d'avoir conclu un accord avec 2 syndicats du centre, accord aussitôt contesté par la CGT. Et aujourd'hui, une partie du personnel de Beaubourg a décidé de poursuivre la grève entamée il y a 3 mois. Des salariés toujours aussi inquiets pour leur avenir pendant et après la fermeture du musée pour travaux. François Chagnot, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
La signature d'un accord entre certains syndicats et la direction indigne plus qu'elle ne rassure.
Oui, 2 syndicats représentatifs ont bien trouvé un accord avec la direction lundi dernier, mais la CFDT et Force Ouvrière n'ont pas consulté les autres syndicats ni les agents du Centre Pompidou avant de signer. Alors à l'Assemblée Générale, ce matin, beaucoup de colère.
C'est une trahison pure et simple. Je pense que c'est surtout impardonnable. C'est une évidence que la grève continue, mais préoccupation et celle de centaines de salariés n'ont pas été ni entendus ni même respectés.
Alors, selon les agents du centre, le protocole d'accord manque de garantie sur la comptabilisation de l'ancienneté pendant la fermeture du musée ou encore sur le retour à leur poste à la réouverture du Centre Pompidou. Mais l'essentiel y est, assure Alexis Fritsch, représentant CFDT.
Je ne suis pas sourd à la colère. La direction de l'établissement nous a dit c'est maintenant ou c'est pas. On a préféré assurer un certain nombre de garanties, notamment en matière d'emploi public. Je ne pense pas que notre organisation syndicale ira vers un nouveau préavis de grève dans l'immédiat.
Mais ça ne signifie pas nécessairement la fin de la grève. Le secrétaire national de la CGT Culture, Vincent Crière, expose les différentes stratégies possibles.
Tout a été fait pour qu'on s'engueule entre nous, entre organisations syndicales, entre trucs. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer ensemble? Est-ce qu'on continue stratégiquement? Il vaut mieux en être, aller dans la signature, d'être dans les réunions de suivi de cet accord, parce qu'il y a de très bonnes choses. Ou est-ce que on a intérêt à ne pas y être et à continuer la lutte, sachant qu'on peut faire les deux, ça ne s'exclut pas.
Les salariés choisiront lundi prochain lors d'un vote en Assemblée Générale.
François Chagnot, merci. L'enquête pour détournement de fonds publics et financement illégal de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse Pécresse en 2022, eh bien cette enquête a été classée sans suite. C'est ce qu'indique aujourd'hui le parquet de Paris. Je suis heureuse de voir mon honneur une nouvelle fois lavé, a déclaré Valérie Pécresse, ex-candidate de la droite, aujourd'hui présidente de la région Île-de-France. La disparition d'une légende de l'athlétisme français, Michel Jazy, est mort aujourd'hui à Dax. Il avait 87 ans. Né dans le Pas-de-Calais, dans une famille de mineurs polonais, Michel Jazy avait battu 9 records du monde dans les épreuves de demi-fond. Un mot du temps demain, il restera gris au nord de la Loire, variable au sud avec du soleil près de la Méditerranée. Les températures minimales iront de 0 à 12 degrés. L'après-midi, toujours la grande douceur, entre 8 et 19 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Anthony Thomasson.